France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes, Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, et pour la dernière fois de l'année 2025, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui sur la bascule à l'extrême droite du Chili, 35 ans après la fin de la dictature. Et puis, pour le débat, nous recevrons un mathématicien et philosophe inquiet, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Dans son tract Gallimard, qu'il publie sous le titre « Sobre, défécondité », il constate l'effondrement de la natalité dans les pays développés. Et s'il n'en conteste pas les raisons, il n'en pointe pas moins les déraisons. Alors pourquoi ne faisons-nous plus d'enfants et pourquoi faudrait-il continuer d'en faire ? Olivier Rey nous rejoindra pour le débat, mais pour leur place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour. Bonjour.
C'est la dernière pour l'année 2025, bien sûr, on se reverra bientôt. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais on se reverra en direct le 3 janvier prochain. Allez, pour cette dernière de la saison, et parce que certains cadeaux de Noël n'ont pas encore été faits, je vous demanderai à la fin de l'émission un conseil de lecture à chacun d'entre vous. Et on commence le duel avec cette annonce de l'Union européenne. C'était mardi, Bruxelles renonce au tout électrique pour 2025 pour les voitures et autorise une part limitée de voitures thermique. Stéphane Séjourné, le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle et de la prospérité, s'en réjouit.
L'Europe remet-elle en cause les objectifs climatiques ? La réponse est non. C'est un cap clair, maintenu et assumé. Par contre, les modalités de calcul changent. Toutes les émissions supplémentaires potentielles générées par ces flexibilités devront être pleinement compensées en amont.
Natacha, au-delà de ce vocabulaire un peu toujours très technique, technocratique, voire est-ce que c'est du pragmatisme ou du renoncement qui se joue autour de la voiture électrique en Europe ?
Oh, ça s'appelle un retournement de veste, déjà, de la part de tous ceux qui nous expliquaient jusqu'à peu que tous ces objectifs étaient formidables. Et derrière, ce sont des rapports de force. Et il est nécessaire d'analyser les rapports de force et d'essayer de comprendre qui gagne, qui perd, qui peut être un petit peu dubitatif.
On rappelle juste que l'idée au départ, c'était le programme, c'était qu'en 2035, on ne puisse plus vendre de voitures thermiques en Europe. Ça veut dire que les voitures thermiques pouvaient continuer à rouler, mais les voitures neuves étaient électriques.
Oui, 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 c'était une espèce de décision, comme ça, de date butoir, ouais. Qui, une fois de plus, ne prenait pas en compte la constitution de filières pour permettre de favoriser la production sur le sol européen. Donc, on peut se dire qu'il y a là une forme de rétropédalage et une prise en compte des impératifs qui nous permettraient d'éviter d'être totalement dépendants, notamment de la Chine. En fait, il faut rentrer dans les détails pour bien comprendre. Donc, il y aura une part de thermique, avec compensation des émissions grâce à de l'acier vert. Les différents constructeurs avaient des intérêts assez divergents. Bon, par exemple, Volkswagen est satisfait, mais les autres restent un petit peu sur leur faim, notamment à cause de cet acier vert. Il y a quelques autres dispositions, par exemple, sur la protection, en fait, des fournisseurs, des équipementiers, parce que si on regarde, par exemple, le cas de la France, un rapport sénatorial du 15 octobre 2025 a alerté sur la situation catastrophique de l'industrie automobile. C'est un rapport qui prévoit une perte d'environ 70 000 emplois qui serait menacée, en particulier chez les équipementiers. Il faut rappeler que la part de la France dans les véhicules vendus en Europe a reculé de 12 points entre 2000 et 2020, et que si en 2000, une voiture sur deux vendue en France était fabriquée en France, en 2020, c'est seulement une sur cinq. Donc, l'industrie automobile française est en train de s'effondrer. Et là, en l'occurrence, ce sont les industriels plutôt allemands qui ont obtenu ce report. Les Français, eux, demandaient 75% de contenu fabriqué en Europe et ils ne l'ont pas obtenu. En fait, la décision est reportée au 28 février dans la loi d'accélération industrielle et on ne verra qu'à ce moment-là qui aura gagné. Donc, pour l'instant, c'est une victoire dans la mesure où il y a des contraintes allégées, notamment pour les petites citadines. Mais la question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Quel est l'intérêt de repousser les règles comme celle-là, si ce n'est pas pour renforcer la production locale? Si ça aboutit uniquement à faire en sorte que les producteurs, notamment allemands, puissent continuer à faire du thermique parce qu'ils ne veulent pas, en fait, modifier leur façon de faire, c'est un échec. Si ça aboutit à une véritable prise de conscience que la puissance publique doit favoriser la production sur le sol européen, on peut se dire que c'est un progrès, d'autant plus que pour ce qui est du choix de l'électrique, en fait, le choix d'une seule technologie est toujours quelque chose d'un petit peu problématique. Mais le choix de la production européenne n'a pas été fait.
C'est une opportunité historique qu'on a ratée là ?
Je pense qu'une fois de plus, on ne prend pas les décisions qui sont nécessaires pour faire en sorte que l'Europe redevienne une terre de production.
Gilles, vous partagez ce point de vue d'une opportunité qu'on aurait gâchée, notamment pour faire davantage plaisir, si j'ai écouté Natacha, aux industriels allemands qu'aux Français ?
Alors, pas totalement. D'abord, je reviens sur la décision, elle-même décision de la Commission, parce que cette affaire n'est pas terminée. Je reviens sur la décision de la Commission. L'Europe avait adopté un pacte vert, lequel qui est la grande transition climatique. Dans ce pacte vert, il y avait un objectif sur l'automobile avec une date, 2035, un objectif qui était une réduction de 100% des émissions par rapport à celle de 2021, et donc mécaniquement le choix d'une technologie qui était le 100% électrique. Vous l'avez dit, Thomas, c'était pas la fin du parc thermique, on pouvait toujours rouler avec son véhicule thermique, on pouvait le revendre, mais c'était la fin de la commercialisation de véhicules thermiques neufs. Après la proposition de la Commission, après l'intense lobbying dont Natacha a parlé, cette date de 2035 est conservée. C'est l'objectif qui est assoupli. C'est pour ça que le mot retournement de veste, je trouve, de Natacha va trop loin, et qui est légèrement assoupli. Au lieu de 100%, d'une réduction de 100%, c'est une réduction de 90% des émissions par rapport à 2021. Et donc, il y a un assouplissement, et donc pour une toute petite partie, il y aura la possibilité de continuer à vendre des véhicules thermiques, c'est principalement les voitures de luxe, les grosses voitures de luxe, des hybrides rechargeables, des voitures électriques avec des prolongateurs d'autonomie et des carburants de synthèse. Et avec une compensation, Natacha l'a évoqué, c'était notamment l'obligation, et la France s'est battue là-dessus, l'obligation d'incorporer de l'acier bas carbone européen. Voilà pour le cadre. Maintenant, comment l'interpréter ? Je crois que c'est un recul, mais je pense qu'il n'est pas si bon pour l'industrie, ce sont les industriels qui ont beaucoup poussé à cette évolution, parce que l'industrie automobile connaît une crise majeure, mais dont l'origine est largement indépendante de cet objectif de tout électrique. Il y a un effondrement de la demande globale, les gens achètent moins de voitures. Les constructeurs ont fait des choix stratégiques, notamment les constructeurs français, en privilégiant les voitures plus grosses, plus chères, avec des marges plus importantes, mais qui, ce faisant, sont difficilement accessibles pour les consommateurs. Il y a des retards technologiques, il y a une concurrence souvent déloyale des Chinois, et l'assouplissement ne règle aucun de ces problèmes-là. J'ajoute que, et c'est peut-être l'élément le plus important d'un point de vue industriel, que si cet assouplissement peut être une bouffée d'air de court terme, il place l'industrie automobile devant un dilemme de moyen terme qui est sur quoi investir. Puisque là où il n'y avait qu'une option qui était on investit massivement sur l'électrique, là maintenant il y a plusieurs options qui sont possibles et les moyens ne sont pas illimités. Donc ce n'est pas si bon pour l'industrie et c'est peut-être pas si mauvais pour l'environnement. C'est ce en quoi c'est pas un retournement de veste, parce qu'il y a quand même un choix massif qui demeure de basculement vers l'électrique et que la date de 2035 a été conservée. Parce qu'on ne l'a pas évoqué. Il y a des incitations, par exemple, pour les petits véhicules, moins de 4,20 m, ce qui d'ailleurs est plutôt bon pour l'industrie française, parce qu'il y a des incitations pour verdir les flottes d'entreprises. C'est très important, c'est 60% des flottes d'entreprises des achats de véhicules. parce qu'il y a un soutien à la production européenne de batteries, et enfin parce que, c'est une question qui est très technique, mais qui était un bras de fer avec les Allemands, le calcul de l'émission des hybrides se fait pas par rapport à ce qui est déclaré par les constructeurs, mais par rapport aux émissions qui sont constatées. Conclusion de tout ça, ce n'est pas si mauvais si, et c'est pour ça que je termine par là, si on en reste là. Parce que le risque, c'est que ce soit la boîte de Pandore qui soit ouverte, que ce ne soit qu'une étape, qu'il y ait un recul plus prononcé au début de l'année prochaine dans une alliance entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen, et que ce soit une étape d'un recul global, puisque point à point après point, ce pacte vert commence à être détricoté.
Alors, quand je parlais de retournement de veste, je parlais plus spécifiquement des discours, des politiques sur la nécessité d'amender ce pacte vert. C'est-à-dire que les mêmes qui, il y a encore 2 ou 3 ans, trouvaient ce pacte vert absolument formidable, aujourd'hui exigent en effet qu'on fasse attention à produire localement, à ne pas défavoriser les producteurs européens. C'est en ça que je pointe une modification du discours. Pour le reste, si on regarde les achats de voitures électrique au mois d'octobre en France, en effet, sur les 10 premiers, il n'y a pas une seule voiture chinoise, donc ça, on peut s'en réjouir. Pour autant, rien n'est fait, je le répète, pour favoriser véritablement une chaîne de valeur locale.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Allez, l'autre grand sujet qui préoccupe l'Union européenne, c'est cet accord de libre-échange avec le Mercosur, un accord de libre-échange qui était sur le point d'être signé, ça devait être d'ailleurs aujourd'hui samedi, mais qui est l'objet d'une fronde des agriculteurs européens en nombre jeudi à Bruxelles, une fronde aussi depuis Paris. Emmanuel Macron a pris la parole jeudi matin.
Je vais ici dire nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas, et que cet accord ne peut pas être signé. Et c'est la même chose, c'est la cohérence de l'Europe, et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs.
Ursula von der Leyen a annoncé que le vote n'aurait lieu qu'en janvier, la signature, la ratification d'un traité négocié depuis des années et des années. Gilles, est-ce que Emmanuel Macron fait cavalier seul en Europe ? Lui, le grand européen, tourne-t-il le dos à cet idéal de construction européenne et fédéraliste ?
Vous l'avez dit, c'est un débat qui est un débat très ancien. Ça fait 25 ans que les négociations ont commencé.
Et d'ailleurs, juste, on sent bien que c'est un débat d'un temps presque passé. En 1999, c'est la pleine puissance de la mondialisation, la certitude que le libre-échange est porteur de richesses. Et il arrive en 2025 dans un autre monde, tout de même.
C'est pas faux. Et c'est un débat, je trouve, dans lequel on nage en pleine confusion. Pour commencer, il y a une confusion sur les attaques contre la procédure elle-même, le déni de démocratie et ce sentiment que la France est unanime, ce qui est rare. La France est unanime et unanimement contre, et pourtant que peut-être en septembre, ce traité va être signé.
En janvier.
Nous avons fait le choix de mettre en commun, de partager notre souveraineté sur un certain nombre de sujets, c'est vrai sur l'euro, c'est vrai sur le commerce international, et donc la Commission, sur mandat des États membres, négocie et signe, et dès lors que, et c'était le sujet hier, qu'il y ait 15 États membres et qui représentent 65% de la population qui y sont favorables.
Ce qu'on appelle une majorité qualifiée.
Ce n'est pas un problème démocratique, c'est un problème politique, un problème de rapport de force. Deuxième confusion, cette fois-ci sur le fond, il y a une asymétrie qui tient au fait que les opposants sont très vocaux et que les défenseurs sont très silencieux. On n'entend pas les autres Européens, et en France même, on n'entend pas ceux qui, dans le secteur industriel, c'est vrai des voitures, c'est vrai des médicaments, dans le secteur agricole même, c'est vrai du lait, c'est vrai du fromage, c'est vrai du vin, qui pourraient être les bénéficiaires de cet accord, mais on entend beaucoup ceux qui y sont défavorables, et ce faisant, ce qui se passe est difficilement compréhensible pour l'opinion. Et puis, deuxième point, ce sont les contradictions. La première que vous pointiez, Thomas, contradiction politique des libéraux pro-européens français qui, pour s'opposer au traité, doivent essayer de construire une minorité de blocage, notamment avec l'Italie de Meloni et avec la Hongrie de Orban. Mais contradiction aussi, contradiction géopolitique des souverainistes qui s'opposent au nouvel impérialisme américain. On en parlait l'année dernière avec le document de stratégie américaine, à la dépendance à la Chine et qui s'opposent dans le même temps à ce traité avec, avec l'Amérique latine, avec le Mercosur, alors que ce serait un moyen de, à la fois de faire pièce aux Américains et aux Chinois, en tout cas de trouver une place pour l'Europe.
Et vous en pensez quoi, vous? Non mais dites-moi, parce que c'est important aussi qu'on raconte, aussi qu'on explique nos positions.
Alors, je ne sais pas si c'est maintenant ou jamais, comme l'a dit d'une certaine manière le président Lula. Je ne sais pas si demain, dans un mois, le traité sera un peu meilleur ou beaucoup meilleur. Mais je pense que, fondamentalement, la vraie question est celle du commerce international et de si on considère qu'il faut s'engager dans le libre-échange comme on l'a fait, et pas seulement celle des garanties, des conditions qui, pour l'essentiel, sont quand même assez, assez largement réunis. Donc moi, je serais plutôt favorable à ce que, à la fin, au bout du bout, on finisse par le signer. Je pense que ça sera très compliqué politiquement, parce que je ne sais pas si le traité sera meilleur. Ce dont je suis certain, c'est que le contexte ne sera pas meilleur au moment du salon de l'agriculture et avant les élections municipales, alors qu'on a fait quand même beaucoup monter la sauce là-dessus.
Ça, c'est sûr. Natacha, le Mercosur, je pense que ce n'est pas votre tasse de thé.
Non. Je pense qu'il faut reprendre, en effet, les éléments mis en avant par Gilles, un par un. D'abord, la phrase d'Emmanuel Macron que vous avez citée, clarté de la position de la France depuis le début.
Oui,
on se pince. J'employais le mot retournement de veste. Ça devient quasiment comique, dans le sens où, en 2017, ce traité était présenté comme absolument formidable. Puis, il a été critiqué parce que c'était Jair Bolsonaro qui dirigeait le Brésil. Puis ensuite, on est revenu un petit peu. Et là, très honnêtement, il y a une semaine, il n'y aurait pas eu la crise agricole, notamment à cause de la dermatose nodulaire contagieuse. On peut considérer que la France ne se serait pas battue contre la signature de ce traité. Donc, la position de la France est tout sauf claire sur cette question-là. Deuxième point, Gilles disait « Nous avons choisi de partager notre souveraineté sur les questions commerciales ». Je ne vais pas me lancer ici dans un débat pour savoir comment on peut partager la souveraineté, mais c'est un débat qui mérite d'être discuté assez souvent, puisque voilà, c'est la question se pose en particulier parce qu'on s'aperçoit que la France, petit à petit, a eu beaucoup de mal, et je pense que ça, c'est une responsabilité des politiques français, à défendre ses intérêts dans un contexte européen où les intérêts sont divergents. Parce que c'est ça le sujet, en fait. Nous ne sommes pas un pays largement exportateur. Nous sommes un pays dont la balance commerciale est largement déficitaire, alors même qu'en Europe, vous avez des pays comme l'Allemagne, comme d'autres, qui sont des pays exportateurs et qui donc ont beaucoup plus intérêt que nous à ce traité. Après, oui, il y a des filières chez nous qui ont intérêt, en effet. Les filières, par exemple, ne serait-ce que l'éthanol pour l'industrie chimique, ne serait-ce que le matériel de transport, etc., etc. On pourrait citer tout cela. Mais les traités de libre-échange ont ce site particulier qu'ils fragilisent un élément qui est essentiel pour la France, à savoir son agriculture. Nous avons certes dans notre agriculture des éléments qui sont des éléments exportateurs, qui sont en général les plus favorisés, mais je ne crois pas qu'il soit bon de laisser éradiquer petit à petit notre filière d'élevage et notre filière maraîchère. Or, c'est la conséquence des traités de libre-échange auquel il faut ajouter le poids de la grande distribution et la non-transparence sur la provenance des produits. Donc ça, c'est pas du fait du libre-échange, c'est du fait des choix de la Commission européenne. En l'occurrence, on sait très bien que nos éleveurs disparaissent les uns après les autres et qu'on ne voit pas bien, d'un point de vue écologique, en quoi il serait intelligent de faire venir des produits d'ailleurs, sachant que nous ne pourrons pas contrôler. C'est totalement absurde. Les clauses miroirs, ça ne marchera pas parce qu'il est impossible de contrôler réellement ce qui est importé depuis d'autres pays.
Oui, juste un mot. Ce qui est principalement en jeu, c'est-à-dire là où il peut y avoir le plus de perdants dans l'agriculture européenne, notamment dans l'agriculture française, c'est la filière de l'élevage. Et donc, là où je partage ce que dit Natacha Polony, c'est que dans les traités de libre-échange, quand il y a des gagnants et des perdants, on regarde trop l'effet global sans s'attarder vraiment sur les conséquences pour les potentiels perdants. Et les arguments qui sont utilisés par la Commission européenne, l'argument principal, c'est: en réalité, tout ça est totalement marginal, ça correspond à moins de 2% du volume global. Bon, mais quand on regarde un peu dans le détail, quand on regarde ce qui va être importé, notamment les pièces les plus nobles du bœuf, ça représente beaucoup plus en valeur. Et donc, oui, s'il y a des perdants, eh bien, il faut travailler là-dessus, parce qu'on ne peut pas simplement avoir une vision globale macroéconomique.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Nous demandons à notre opposition une ouverture d'esprit et du bon sens, car pour combattre le crime organisé, nous allons avoir besoin de vous. Si on veut améliorer le système de santé et celui de l'éducation, nous allons avoir besoin de vous. Et je le dis clairement, je serai le président de tous les Chiliens, sans exclusion.
Allez, on est encore en Amérique latine, mais un pays qui n'est pas membre du Mercosur, le Chili. Le nouveau président José Antonio Kast, élu largement dimanche dernier. Un président d'extrême droite, élu grâce à l'union avec la droite modérée. Un fils d'un père allemand, membre du parti nazi. Un homme, le nouveau président, fasciné par Pinochet. Il a déclaré que Pinochet aurait voté pour lui. Kast a d'ailleurs voté lui-même en 88, lors d'un référendum en faveur du maintien au pouvoir du dictateur. Il a voté en faveur du oui, qui a été largement minoritaire à l'époque, ce qui a entraîné la fin de la dictature du Chili. Cet homme-là, doit-on s'en méfier et doit-on croire à ce discours qu'on vient d'entendre de bras ouverts à l'ensemble des Chiliens, où on est dans une espèce de lame de fond d'une Amérique latine qui est en train de basculer à droite, voire à l'extrême droite, entre la Bolivie, entre l'Argentine ou d'autres à venir peut-être, le Venezuela demain si Maduro est renversé comme Trump le promet. Il y a là une lame de fond, Natacha.
Ah oui, nous sommes bien d'accord, mais c'est même au-delà de l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qu'il va falloir observer, qui est un mouvement, de néo-néolibéralisme, en fait. Oui. Il y a quelque chose d'assez frappant. Bon, pour revenir sur José Antonio Kast, donc il faut quand même souligner qu'il est le président élu avec le plus de voix de l'histoire chilienne. 7,24 millions de voix, 58,2%, c'est gigantesque, avec des jeunes qui ont voté pour lui, alors évidemment des jeunes qui n'ont pas connu la dictature de Pinochet, et il faut essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. On peut se focaliser sur un premier point. 63% des Chiliens sont préoccupés d'abord par les questions de violence. Et c'est un élément très important en Amérique latine pour comprendre la nature des votes. Ensuite, il y a les promesses d'expulsion de migrants, mais c'est dans le discours de Kast, c'est lié.
C'est l'ordre.
Il y a une part de migrants vénézuéliens qui peuvent être liés à des gangs. Donc, d'accord. Deuxième élément, il y a le précédent du vote sur la nouvelle constitution, c'était en 2022. Il y avait un projet de nouvelle constitution pour abolir celle qui datait de la fin de Pinochet. Et simplement, la gauche avait donné l'impression, et donc avait largement perdu, parce qu'elle avait donné l'impression de pousser différents éléments qui, à l'époque, étaient des éléments extrêmement communautaristes, identitaires, extension des droits individuel, qui a hérissé une partie des Chiliens et qui a abouti à l'échec de ce projet. Donc on voit qu'il y a eu des erreurs énormes. Mais après, il y a une vague actuellement qui est une vague de dérégulation. Et il faut se souvenir que le 20 mars 1975, il y avait eu au Chili la visite de trois économistes, Milton Friedman, Arnold Arberger et Carlos Langoni. Et le Chili, à ce moment-là, est devenu, sous Pinochet, donc, le laboratoire de ce qu'on peut appeler le néolibéralisme autoritaire.
Les Chicago Boys.
Voilà. Et Il faut citer par exemple le ministre de l'économie de Pinochet, Pablo Barahona, qui disait « La nouvelle démocratie devra être autoritaire au sens où les règles qu'exige la stabilité du système ne peuvent être sujettes au processus politique ». Ce qui résume la vision néolibérale. Eh bien, nous sommes dans une nouvelle vague de cela. Et je pense que si on ne comprend pas les mécanismes profonds, c'est-à-dire la demande de stabilité, d'ordre des populations et l'impression d'être écrasé par un système, on ne comprendra pas comment enrayer cette vague.
Gilles, leçon chilienne, leçon internationale aussi à cette élection pour vous ?
Oui, je vais terminer par là. Natacha l'a évoqué, la gauche au pouvoir au Chili avait perdu le référendum. Elle avait perdu l'année dernière les élections locales et notamment la mairie de Santiago. Elle est arrivée en tête au premier tour des élections présidentielles, mais sans réserve. Et donc, José Antonio Kast a été élu avec une majorité qui est une majorité très substantielle. L'interprétation que moi j'en fais en tout cas, c'est qu'on se trompe d'inquiétude. On se trompe d'inquiétude parce qu'on concentre beaucoup sur l'inquiétude illibérale. Oui. C'est ce que vous avez fait, Thomas. C'est compréhensible parce qu'il y a cette mémoire du Chili, la mémoire de Pinochet, même la mémoire de l'accueil, comme dans d'autres pays latino-américains d'anciens nazis, et que Kast vient réactiver cette mémoire-là. Mais je crois que cette inquiétude est peut-être excessive, que en réalité, depuis maintenant de nombreuses années, il a reconnu sa défaite la dernière fois, ce qui est rarement le cas, et ce qui est même de moins en moins le cas. Ça fait maintenant de très nombreuses années qu'il ne fait aucune référence à Pinochet, même depuis sa précédente campagne. Donc, c'est sans doute une inquiétude excessive. En revanche, l'inquiétude, non pas illibérale, mais ultra-libérale et ultra-conservatrice, celle-là est sans doute justifiée. L'agenda de cette campagne a été, comme dans beaucoup d'autres campagnes, centré sur les questions de sécurité et d'immigration. L'immigration, en l'occurrence, venant du Venezuela. Et Kast a été très ambitieux sur les objectifs, très flou sur les moyens, très discret sur les questions sociétales. Et donc, il est possible que ce soit plus Meloni que le retour de Pinochet. Bon, je termine d'un mot. La question qui va se poser maintenant pour lui est de savoir aussi comment gouverner. Il n'a pas de majorité absolue au Congrès. Alors, on est dans un régime qui est plus présidentiel. Il peut gouverner sur un certain nombre de choses par décret, mais est-ce qu'il va chercher et est-ce qu'il va trouver une majorité ? Deuxième remarque, c'est la bascule conservato-libérale sur de plus en plus de pays. Vous aviez commencé par ça en Amérique latine. Et puis, d'un mot, la capacité que nous avons en France, dans la gauche française, de rebond picrocolin est quand même absolument exceptionnel, puisque Clémence Guettet, porte-parole de la France insoumise, a réussi à introduire une polémique franco-française sur la défaite de la gauche, expliquant que la candidate communiste était une social-démocrate, sans doute une social-libérale, et peut-être même une social-traître.
Oui, mais la droite aussi a regardé l'élection de Kast avec intérêt, puisqu'on considère que sa victoire, c'est la victoire de l'union des droites.
On est dans un mouvement de fond sur ce genre de position.
Et ce n'est pas le premier pays.
Oui. Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Olivier Rey.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes mathématicien et philosophe, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, et vous avez publié récemment un tract Gallimard sous le titre « Des fécondités ». Et nous vous recevons la semaine de la publication d'un grand rapport de l'Institut National des Études Démographiques, l'INED. C'était mardi. Un rapport qui pointe, je le cite, que la France comptait au 1er janvier 2025 68,6 millions d'habitants, soit 169 000 de plus qu'un an auparavant. Je continue de citer, l'augmentation de la population n'a jamais été aussi faible depuis la Seconde Guerre mondiale. La croissance démographique française tient presque essentiellement à un solde migratoire positif, estimé à 152 000 personnes en 2024. Et dans la foulée, la ministre du Travail, Stéphanie Rist, a pris la parole.
Dès l'année prochaine, chaque Française et Français de 29 ans recevra de l'assurance maladie un message personnalisé sur sa santé reproductive. Non pas pour mettre une quelconque pression, mais pour éviter un effet de « si j'avais su » et de préserver sa fertilité avant que celle-ci ne baisse.
Alors c'est passé relativement inaperçu cette semaine et pourtant, on a des choses à dire après cette phrase. Olivier Rey, ce qu'on vient d'entendre, c'est que chaque Français, l'année prochaine, à 29 ans, recevra un message l'informant en gros que l'horloge biologique avance et que s'ils veulent faire un enfant, il serait temps de le faire. La ministre dit pas de pression. Comment est-ce que vous avez entendu juste ça pour commencer avec vous ?
Bah écoutez, je ne l'avais pas entendu.
Vous voyez, c'est fou, même vous.
Je suis assez impressionné. Bon, il est vrai également que biologiquement, la fertilité féminine est la plus forte, je crois, entre 19 et 26 ans, quelque chose comme cela. Et qu'avec le décalage de plus en plus accusé de l'âge du premier enfant, il est clair qu'un certain nombre de problèmes de fertilité peuvent se poser, et une partie du décalage qu'on observe entre le nombre d'enfants souhaités et le nombre d'enfants qui sera effectivement réalisé s'explique en partie par cela.
Donc c'est une bonne idée, selon vous, de d'envoyer un courrier aux gens pour leur dire, attention, vous avez 29 ans, parce qu'en général, c'est le cancer colorectal à 50 ans, là, c'est 29 ans, attention.
Non, mais sur le procédé, là, je ne me prononcerai pas, je n'étais pas au courant, mais...
Mais est-ce que, alors, je précise ma question, est-ce que
l'heure... Cela dit, la question existe.
Voilà. Hein. Est-ce que l'heure est à ce point grave qu'il faille en venir à cela ?
Oui, alors on a un mouvement mondial de décroissance de la natalité, à vraiment de très très rares exceptions près, partout la natalité décroît. Alors cela étant, dans certains pays, en particulier en Afrique, elle partait encore de très haut et donc elle reste encore au-dessus du taux qui est nécessaire pour le renouvellement des populations. Donc là, on a encore des populations en forte croissance. Mais dans beaucoup de pays, et c'est très corrélé avec ce qu'on appelle le degré de développement, dans beaucoup de pays aujourd'hui, la natalité est tombée en dessous, voire très en dessous du taux qui serait nécessaire pour le renouvellement des populations. En Europe, on est à 1,38 enfants par femme, et dans des pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Pologne, on est même à 1,2 ou en dessous. Il faut bien se rendre compte de ce que cela veut dire. 1,2, ça veut dire que après une génération, on n'a plus que 60% des gens. Après deux générations, la population s'est réduite de plus de 60%. Et à la troisième génération, elle s'est réduite de 80%.
C'est donc, très rapide.
Oui, voilà. Et pour l'instant, c'est masqué en grande partie par le vieillissement de la population et par les générations nombreuses du baby-boom. Mais quand ça va se mettre à baisser, ça va baisser de manière dramatique.
Votre livre a une dimension historique, et donc je vous pose la question, comment en est-on arrivé là ?
Ben avec le développement, il s'est passé un phénomène curieux, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'industrialisation, l'urbanisation galopante à partir du 19e siècle ont engendré une explosion démographique. Et donc on a eu l'impression que le développement était le moteur de cette explosion démographique. En fait, non, ce qui se passe, c'est qu'avec le développement, on a eu une baisse très spectaculaire de la mortalité, en particulier de la mortalité infantile et de la mortalité des femmes en couche. Au XVIIIe siècle, en France, il y avait encore un enfant sur deux qui n'atteignait pas l'âge de 11 ans. Et c'est donc pour ça aussi que les parents qui voulaient avoir une chance d'avoir des enfants qui atteignaient l'âge adulte, bah, il valait mieux qu'ils aient beaucoup d'enfants. Et puis, il y a eu donc cette chute de la mortalité, mais par inertie, l'habitude d'avoir quand même un certain nombre d'enfants s'est maintenue, ce qui fait qu'on a eu une explosion démographique, d'abord en Europe, et puis qui s'est ensuite propagée de manière plus spectaculaire encore au reste du monde. Mais ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que les modes de vie dans les pays développés en fait, sont des modes de vie qui sont hostiles à la natalité, ce qui fait que, bien, au bout du temps, l'inertie nataliste s'épuisant, la natalité s'aligne sur ce qu'elle doit être selon les modes de vie des pays développés, c'est-à-dire qu'elle elle s'effondre.
Hostile à la natalité ?
Oui.
Ça veut dire quoi, ça ?
Bah, écoutez, ça c'est une chose sur les qui me semble vraiment fondamentale. Élever des enfants, c'est une entreprise de très grande ampleur, parce que les êtres humains viennent au monde dans un état de très grande déréliction. Il faut qu'on s'en occupe pendant de très nombreuses années avant qu'ils puissent avoir une certaine autonomie. Ça demande beaucoup de soins, d'attention, d'énergie. Tous les parents le savent.
D'hygiène.
Voilà. Et le cadre normal pour accueillir les enfants, c'est le cadre dans lequel l'humanité a vécu depuis ses origines jusqu'à une date très récente, c'était le cadre communautaire. Et quand vous avez une communauté familiale de voisinage, si vous voulez, un enfant qui arrive, ça n'est jamais que une personne de plus dans la communauté, et la communauté digère assez facilement l'arrivée de cet enfant. Lorsque vous êtes un couple isolé dans une grande ville, que vous ne pouvez pas compter sur une famille proche et que vous ne pouvez pas compter sur un voisinage de confiance, l'arrivée d'un enfant dans un couple, à supposer d'ailleurs que le couple se maintienne dans le temps, c'est un bouleversement gigantesque. Et donc, il est tout à fait compréhensible que beaucoup de personnes hésitent à franchir le pas.
Gilles.
Alors, vous venez de parler de voisinage de confiance. Il y a un autre élément qui est un avenir de confiance. Et je voudrais qu'on commence, peut-être pour l'évacuer, sur la question du souci de la planète et de ce qui peut... ce qu'on entend beaucoup dans le débat public, d'un désir d'enfant qui serait moindre, mais d'une réalisation d'enfant qui serait moindre.
Le mouvement No Kids.
Voilà, c'est le mouvement No Kids. Alors, vous citez, depuis que je lis ça, je trouve cette phrase absolument formidable, vous citez Frederick Jameson qui dit « Il est aujourd'hui devenu plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. » Quelle est la part de ce souci de la planète dans le mouvement de dénatalité ?
Alors, nous sommes devant des difficultés absolument gigantesques. Mais si vous voulez, si nos aïeux s'étaient inquiétés, comme nous le faisons, du futur, et il y a belle lurette que l'humanité aurait disparu. Comme disait Jacques Bainville, depuis qu'il y a des hommes sur la Terre, ça n'a jamais été. Les problèmes sont de toujours. Auparavant, il y avait les épidémies de peste, il y avait des grandes guerres, il y avait des invasions. Enfin bon, voilà, le futur n'était absolument pas assuré. Alors ce qui s'est passé, c'est quelque chose de vraiment une singularité dans l'histoire humaine, c'est qu'avec l'avènement de la modernité, est arrivée l'idée que grâce aux sciences, aux techniques, aux progrès économiques et sociaux, nous allions pouvoir maîtriser le destin. Maîtriser ce qui nous arrivait. Et puis après deux siècles, force est de constater que finalement on n'y arrive pas et que même les efforts qui ont été déployés pour maîtriser le destin, ont engendré de nouveaux problèmes. On parle aujourd'hui beaucoup du climat, de la biodiversité, etc. Et alors, d'un côté, on peut dire que ça n'est jamais qu'un retour à la normale, c'est-à-dire qu'avant le 18e siècle, les hommes s'étaient toujours vécus comme la proie du destin. Cela étant, traîne encore dans notre esprit l'idée que nous devrions être assurés du futur. Et donc il y a ce décalage entre ce rêve moderne qui demeure que nous devrions être assurés du futur et par ailleurs le fait que nous ne le sommes plus.
Mais alors, quel est le poids alors de ces mouvements ? Je prolonge la question. Est-ce que c'est un phénomène purement médiatique ou très très marginal que ces gens qui refusent de faire des enfants parce qu'ils considèrent que le monde court à sa perte ? Ou bien c'est un phénomène majeur qu'il faut prendre en compte dans votre grille de lecture ?
Bon, je pense que d'une part, il y a des arguments rationnels que l'on peut avancer pour justifier le fait de ne pas avoir d'enfants. Et d'autre part, il y a des raisons pratiques. Et personnellement, quand on voit la corrélation extraordinaire de par le monde entre, encore une fois, le degré de développement et la baisse de natalité, j'ai l'impression que, et c'est un mouvement qui est initié depuis très longtemps, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'aujourd'hui, l'angoisse climatique est plus une justification rationnelle d'un mouvement qui a ses origines ailleurs.
Quelque chose de post-rationalisé.
Oui, quelque chose comme ça.
On va creuser ça. Natacha.
Alors, vous évoquez les différents éléments qui peuvent expliquer cela. Donc, vous venez de le dire, l'idée du fantasme de la maîtrise totale. Mais vous évoquez aussi, vous avez cette phrase à un moment sur les modes de vie contemporains. Vous dites, à l'intérieur d'un tel cadre, l'enfant entre en compétition avec l'ensemble des biens de consommation dont, par le temps qu'il requiert et les dépenses qu'il occasionne, il barre l'accès. Au gré de cette compétition, il tente à devenir lui-même un bien de consommation dont le rapport qualité-prix pourrait paraître dissuasif. Au-delà de la cruauté de la phrase. Il y a à peu près 25 ou 30 ans, Marcel Gauchet avait écrit un article important sur l'idée de l'enfant du désir, c'est-à-dire le bouleversement anthropologique que constituait le fait de pouvoir choisir d'avoir des enfants. L'enfant, avant cela, dans toute l'histoire de l'humanité, était un donné, c'était une conséquence naturelle du couple. C'est devenu quelque chose que l'on choisit. Est-ce que finalement, cet enfant du désir n'est pas par là même, parce qu'on le choisit, mis en compétition? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Mis en compétition avec les biens de consommation, et finalement ce serait ce désir qui créerait la possibilité du non-désir?
Olivier Rey.
Oui, vous faites bien de vous référer à cet article de Marcel Gauchet dans Le Débat, je ne sais plus, c'est au début des années 2000, qui est un article fondamental, et puis qui a été suivi aussi par un livre de Paul Lyonnais qui s'appelle Le recul de la mort, et qui analyse aussi les changements radicaux qui sont intervenus dans les rapports entre les parents et les enfants. Du fait de cette émergence de ce qu'on appelle l'enfant choisi. Bon, je pense qu'il ne faut pas exagérer la question du choix, parce qu'il y a belle lurette que la contraception existait, que les avortements existaient, qu'on n'est pas donc passé d'une époque où l'enfant arrivait comme une météorite, et puis l'époque où on le choisit. Alors cela étant, c'est vrai que ça a aussi changé les rapports entre les parents et les enfants, et en particulier Marcel Gauchet insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les parents accueillent leur enfant en tant que le produit de leur désir, et ils sont beaucoup moins armés ensuite vis-à-vis de cet enfant pour s'opposer à quelque désir que ce soit que manifeste cet enfant. Et donc ça complique aussi beaucoup, beaucoup l'éducation à donner. Et donc là aussi, il y a une donnée qui entre en ligne de compte, c'est qu'aujourd'hui, un enfant est une charge qui est plus lourde qu'elle ne l'a été par le passé, non seulement parce qu'il n'y a pas le soutien communautaire, mais en plus parce que vis-à-vis de cet enfant, la position des parents est fragilisée. Mais sinon, je pense qu'il y a trois grandes tendances aujourd'hui qui s'opposent à la procréation. On pourrait dire l'économisme que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la liberté est de plus en plus assimilée à la liberté économique, bon, en gros, les enfants font baisser le pouvoir d'achat à cause de toutes les dépenses contraintes qu'ils occasionnent. Je pourrais dire qu'il y a l'individualisme aussi, c'est-à-dire que la recherche est perdue du développement personnel, peut faire ressentir l'arrivée d'un enfant aussi comme un obstacle à cet épanouissement. Et puis, je dirais aussi l'utilitarisme, parce que nous sommes dans un monde qui n'a jamais déployé autant de moyens, et pourquoi déployer autant de moyens? La réponse utilitariste qui a été donnée au XIXe siècle, c'est pour maximiser le bonheur des hommes. Mais en fait, cet utilitarisme, au fil du temps, a eu tendance à se transformer en minimisation de la souffrance. Et à partir du moment où on a cette hantise de la souffrance, cette hantise de faire souffrir, la meilleure façon de minimiser la souffrance, c'est qu'il n'y ait pas d'enfant. Parce qu'un enfant qui n'existe pas ne souffrira pas. Et il y a quand même cette idée qui est quand même très forte, qui est que il faut réfléchir à 2, 3, 10 fois et peut-être donc arriver à ne pas faire naître un enfant parce que l'envoyer dans ce monde où il est promis à la souffrance, ce serait criminel. Et bon, là, on a une inversion qui s'est produite, d'ailleurs, parce que pendant très longtemps dans l'histoire humaine, le célibataire sans enfant était vu comme un égoïste par rapport aux personnes qui avaient des enfants. Et aujourd'hui, il y a une sorte de retournement de l'incrimination morale où c'est les parents qui deviennent criminels d'envoyer dans le monde de pauvres innocents qui n'ont rien demandé et qui vont avoir à se débrouiller avec de grands problèmes.
C'est cela que vous considérez, et ce sont vos mots, de déraisonnable dans votre texte ?
Oui, parce que c'est beau dans la langue française. À partir de la ratio latine, nous avons deux mots qui ont été dérivés, qui sont raison et rationalité, et deux adjectifs, raisonnable et rationnel. Et à l'intérieur du cadre dans lequel nous vivons, dominé, comme j'ai dit, par l'économisme, l'utilitarisme et l'individualisme, il est rationnel de ne pas avoir d'enfants. Mais cela étant, je pense que ce cadre est déraisonnable. Parce que si on y met l'économie, a priori, elle est là pour servir la vie, et si elle se met à s'opposer à sa continuation, on peut dire qu'il y a une perversion. Pour ce qui est de l'utilitarisme, on aboutit avec la volonté d'éradiquer la souffrance, un pur nihilisme. Et puis, dans l'individualisme qui recherche l'épanouissement personnel, il faut se rappeler que l'épanouissement, c'est un terme de botanique qui a d'abord concerné les fleurs. Et quand une fleur s'épanouit, c'est pour préparer la venue du fruit. L'épanouissement est en vue de la fructification. Et un épanouissement qui n'a d'autre fin que lui-même, au bout d'un moment, vire à l'absurde.
Gilles. Entre ces trois causes, pour poursuivre la discussion, comment vous les hiérarchisez ? Parce que en vous lisant, j'ai quand même le sentiment que cette question de l'individualisme contemporain est la question centrale. Il faut reprendre simplement les têtes de chapitre. L'évaporation des communautés, vous les avez évoquées, les enfants insupportables. En enfance, c'est compliqué à gérer. Le mythe de la vie jeune, je reprends les têtes de chapitre de votre livre, la préférence même pour les animaux. Est-ce que le fil rouge de tout ça, c'est pas d'abord l'individualisme contemporain ?
On les dirait.
Oui, enfin, l'économisme, individualisme, utilitarisme, tout cela fait système. Tout cela va ensemble. Alors après, effectivement, on peut sans doute peut-être... insister davantage sur l'individualisme. Et c'est pour cela aussi que dans la deuxième partie, dans les raisons que l'on peut avoir de continuer à procréer, j'ai en particulier cité Charles Péguy qui parle du père de famille. Alors, le grand reproche que j'ai à faire ici à Péguy, c'est qu'il passe sous silence la mère de famille, alors qu'elle est largement aussi concernée, voire davantage. Mais alors, disons, le père de famille et la mère de famille, comme les derniers grands aventuriers modernes. Et il y a eu tout un discours au XXe siècle qui a eu tendance à ringardiser la famille, à en faire un lieu d'enfermement, un lieu de toutes les dominations dont il fallait absolument se débarrasser.
Ouais. Et puis Vichy est passé par là aussi. C'est pas que discours ringardisant, c'est aussi un discours très idéologique sur la famille.
Ce qui s'est passé aussi, là, c'est vraiment en France très particulier, parce que quand le régime de Vichy s'est installé, il avait très peu de légitimité, et il a cherché comme slogan, d'inclure dans son slogan ce qui pouvait rassembler tous les Français. Et travail, famille, patrie, si vous voulez, De Gaulle à Londres, il n'allait pas dire paresse, terminer avec la famille et terminer avec la patrie. Si vous prenez Émile Zola à la fin de sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle Fécondité, où il fait l'éloge des grandes familles, en particulier parce que ça permettra de peupler l'Empire français, donc pour la gloire de la patrie, et un livre qui s'appelle Travail. Et donc, si vous voulez, on pourrait dire que Travail, famille, patrie, c'était le slogan de Zola, qui n'était pas un homme d'extrême droite. Mais à partir du moment où Vichy a pris cela comme devise, évidemment, après la guerre, ça n'a pas contribué à redorer le blason de la famille.
Ça, c'est sûr. Ça n'a pas empêché le baby-boom après non plus. Non.
Et ce triptyque, d'ailleurs, il vient de La Roque et des Croix de Feu.
Oui, mais enfin, les jeunes qui, en 20 ans, font mai 68, sont imprégnés de cette idée qu'il faut combattre Vichy. Alors même que la réponse de De Gaulle était « Travail, famille, patrie, Pétain n'a jamais travaillé, il n'a pas eu d'enfant et il a trahi sa patrie. » Mais pour prolonger la question de Gilles sur l'individualisme, vous citez à un moment du livre les particules élémentaires de Michel Houellebecq sur le rapport entre un père et son fils. Et il y a cette phrase, accepter l'idéologie du changement continuel, c'est accepter que la vie d'un homme soit strictement réduite à son existence individuelle et que les générations passées et futures n'aient plus aucune importance à ses yeux. Est-ce que selon vous, c'est ça le cœur du problème et ce qui fait qu'il n'y a plus en fait, de transmission et de dépassement du cadre de sa propre vie par un individu?
Êtes-vous welbeckien et anti-moderne, Olivier?
Je ne suis pas sûr que ce soit le cœur de la chose. C'est un élément qui effectivement ne contribue pas à une forte natalité. Surtout que je mets en contraste ce passage de Houellebecq avec un passage de Charles Péguy écrit un siècle plus tôt, où un paysan pense à ses enfants et il les voit continuer le mode de vie que lui-même avait connu. Et c'est vrai que c'est une grande incertitude qu'ont tous les parents aujourd'hui. Que puis-je transmettre à mes enfants à partir du moment où le monde dans lequel ils seront appelés à vivre pourra être très différent de ce que nous avons nous-mêmes connu. Et donc c'est vrai que ça fragilise ici le rapport entre les parents et les enfants. Mais si on le prend d'une autre manière, on pourrait dire que ça peut le renforcer. C'est pour ça que je reviens à cette idée de Péguy, des parents comme aventuriers modernes. Effectivement, quand on se lance dans une aventure, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de dangers, mais c'est précisément par ce goût de l'aventure que l'on s'y lance. Et là, il y a un retournement vraiment à opérer. Alors que la vie de famille avait été vraiment toujours présentée comme quelque chose qui s'opposait complètement à l'esprit d'aventure, aujourd'hui, l'aventure, elle est apportée de chacun d'entre nous à travers le fait d'avoir des enfants.
Je prolonge ma question. Est-ce que l'aventure, c'est la confrontation à l'autre et que c'est ça qui est difficile? Parce que dans un sens, vous citez le mouvement qui remplace les enfants par des animaux. L'animal de compagnie, c'est l'autre sans les difficultés de la confrontation à l'autre. C'est quand même beaucoup plus simple.
Alors, je vous présenterai mon chat, Natacha. Vous ne direz pas la même chose. Olivier.
Oui, vous savez, je le cite aussi, les Grecs avaient plusieurs verbe pour, ou là où nous n'en avons qu'un seul, qui est aimer. Ouais. Donc il y avait erao, substantif eros, il y avait phileo, substantif philia, il y avait agapan, substantif agapé. L'agapé, c'est l'amour d'accueil. Quand on dit Dieu est amour dans les évangiles, c'est Dieu est agapé. Et puis il y avait encore un autre verbe qui était stergo, qui a donné comme substantif storgé, et c'était spécialement l'amour à l'intérieur de la famille, et plus encore l'amour des parents pour leurs enfants. C'est une forme d'amour très particulière qui n'est ni de l'éros, ni de la philia, ni de l'agapé, quand on y réfléchit. Et en fait, cette capacité à aimer selon la storgé, ça fait vraiment partie fondamentalement de nos facultés naturelles. Et également, quand les gens parlent d'épanouissement personnel, eh bien, on peut dire que c'est dommage de passer toute une vie en laissant de côté cette faculté naturelle extraordinaire.
Combien d'enfants avez-vous, Olivier Rey ?
Deux pour l'instant.
Pour l'instant, deux, c'est pas encore le seuil de renouvellement des générations.
Non, attention. Mais bon, si j'avais pas d'enfants, on me critiquerait en disant que je parle de ce que je ne connais pas. Si j'avais nombreuses familles, on dirait que je prêche pour ma paroisse.
Absolument.
Bon, hein, voilà.
Deux, c'est voilà. Vous êtes entre deux pour pouvoir écrire ce livre. En fait. Merci à vous. Allez, pour terminer l'année, comme promis, un conseil de lecture pour les cadeaux de Noël de la dernière, ou plutôt allez, d'avant-dernière minute. Natacha. Un livre ?
Oui, moi je vais
rester. Un conseiller à nos auditeurs.
Je vais rester dans un registre assez sérieux, mais vraiment ça vaut le coup. Ça s'appelle L'Empire souterrain de Newman et Abraham, qui sont deux chercheurs américains qui montrent comment les États-Unis ont utilisé les réseaux de communication et les réseaux financiers pour essayer, depuis en gros le 11 septembre 2001, de contrôler l'ensemble de la planète et un peu d'acculer leurs adversaires. C'est passionnant, ça se lit comme un roman.
Vous vous souvenez de l'éditeur ?
Je ne me souviens pas de l'éditeur. Je pense que ça doit être Odile Jacob, mais je peux me tromper.
Ça pourrait, en tout cas. Gilles.
Alors, moi, c'est un petit roman qui est paru en 2025 chez Grasset, qui s'appelle Un Arabe. L'auteur s'appelle Oscar Koupfan. Et c'est un tout petit livre qui raconte l'histoire d'une vieille dame qui s'est fait voler 35 euros en préparant son déjeuner dans un village et ce qui se passe derrière, dans la recherche du coupable. C'est construit de manière absolument formidable, c'est très bien écrit et c'est haletant.
Je ne vous ai pas du tout prévenu, mais Olivier Rey, est-ce qu'il y a un livre dans l'année qui vous a tellement plu que vous avez envie de le conseiller?
Écoutez, là vous me prenez au dépourvu, mais le dernier livre de d'Annie Robert Dufour, qui s'appelle Sadique Époque, vaut le détour.
Exactement. Et quant à moi, allez, une petite proposition aussi de lecture en guise aussi d'hommage et de pensée très chaleureuse. Il y a un livre qui nous a tous beaucoup touchés cette année, qui s'appelle Intérieure nuit, qui est le livre de Nicolas Demorand, publié aux Arènes. C'est une manière pour moi de saluer Nicolas et d'espérer bientôt l'entendre à nouveau lors des matins de France Inter. C'est ainsi que s'achève notre année 2025 du Grand Face à Face. Merci Gilles, merci Natacha, merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatt et Joachim Taïeb à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation. Aujourd'hui, Julien Dumont était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour France, Russie, anatomie d'une passion avec l'historienne Samine Dulin. Cette conversation, vous pouvez déjà l'écouter en podcast sur l'appli Radio France. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël si vous le fêtez et une bonne année parce qu'on va tous y passer.